you like another explanation all of your failures. I'm not your Leo. Don't touch my hair or my skin. Don't be jealous, man. Don't them. They hate us, but they stop listening. Don't them. We are not Beyonce and I am. Oh, man. Mm-hmm. This shit is crazy. When I was young, they made fun of my big moves. Big ass, juicy hips, and big titties. Now they all have the same, we notice all shooters. Thank God for the surgery, cause I'm black. I'm a black and my skin never gonna change. So please, step out of my life.
Cause nobody gonna change it.
I say I'm black.
I'm a black and proud.
I'm a black and white.
Pour l'instant, va commencer l'émission Dans mon tiroir. Pendant une heure, c'est vous qui avez le pouvoir grâce au site radio-g.fr. En effet, à tout moment, vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton stop situé sur le site radio-g.fr. Si une chronique vous ennuie ou que vous la trouvez trop longue, stoppez-la de chez vous avec un simple clic. Dans le studio, nous entendrons alors ce jingle. On devra changer de sujet. Au contraire, si le sujet est intéressant et que le chroniqueur peut le finir, il aura droit à ça.
C'était vraiment très intéressant.
C'est donc vous qui, dans un instant, allez prendre le pouvoir. Pendant que l'équipe s'installe, rendez-vous de suite sur le site radio-g.fr et cliquez sur le bouton qui vous invite au vote. Vous pouvez aussi aller sur le chat pour parler avec nous, anonymement et simplement, pendant l'émission. Nous voyons en direct vos messages.
C'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant.
L'équipe de Dans mon tiroir est en train de s'installer. Ils seront bientôt prêts à vous soumettre leurs chroniques. Ce sera à vous de les juger en direct, voire même de les faire taire.
C'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant.
En attendant le début de l'émission, rendez-vous sur le site radio-g.fr, puis accédez à la page des votes et du chat. A tout de suite.
C'était vraiment très intéressant.
Bonsoir et bienvenue dans Mon Tiroir, l'émission qui a des choses à vous dire. Par contre, elles sont-elles intéressantes? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ce soir avec cette émission interactive où vous donnez votre avis de chez vous en temps réel. Septième émission en direct. Bonsoir aux chroniqueurs du soir. Bonsoir Joe qui réalise également cette émission.
Bonsoir.
Bonsoir Florian.
Bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Bonsoir Sandra.
Bonsoir.
Et bonsoir Théo également qui est là.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Bruno.
Et puis bonsoir moi-même. Allez, tout est prêt. On va ouvrir nos tiroirs et les votes sur la page radio-g.fr. Bienvenue dans Mon Tiroir. Avant de connaître les sujets retrouvés dans vos tiroirs, chaque chroniqueur, on va aborder quelques brèves locales lues dans les journaux, à voir si ça vous intéresse. Donc vous pouvez également voter depuis vos smartphones ici autour de la table. Et bien sûr, chez vous, vous pouvez voter, savoir si ça vous intéresse ou pas. Donc, on rappelle que donc ce sera local, puisque le jeudi 28 septembre, la nouvelle résidence étudiante, les Estudines, a été inaugurée dans le quartier Saint-Serge. Est-ce que vous le saviez, ça, qu'il y avait une nouvelle résidence étudiantes qui viennent, parce qu'il y a un grand problème de logement à Angers, donc on est content.
La patinoire,
c'est ça, voilà, c'est de ce côté-là. Donc, 150 logements.
Ils remplacent la patinoire.
Ah non,
ils vont pas aimer.
Ils vont se les geler.
150, et puis ils sont déjà tous pleins.
Oh, déjà?
Déjà.
En même temps, il y a quand même des étudiants qui dorment au camping. Donc, du coup.
Oui, il y en a qui dorment au camping et qui dorment dans leur voiture.
Dehors, ouais.
Ouais, ouais. Donc là, c'est privé, hein. C'est donc, ils avaient déjà ouvert une résidence il y a 4 ans à proximité de la gare. Donc c'est FH Immobilier qui fait ça. Donc il y a 150 logements. Ils sont tous meublés et équipés. Donc on arrive, on est installé. Ça se situe à quelques minutes du campus Saint-Serge. Les studios vont de 17 à 28 mètres carrés. Ils sont loués de 615 à 770 euros. Donc c'est quand même une somme.
Cher. Ouais.
C'est quand même une sorte. Donc c'est un petit peu de l'hôtellerie quand même, parce que la location comprend les différents services. Il y a une salle de sport qui est vraiment bien, avec des pleins de pour courir, pour tout ça. Donc c'est assez sympa. Est-ce que ça va durer dans le temps, on verra. Il y a une salle de coworking, il y a une laverie, il y a une salle à manger, et puis il y a quelqu'un à l'accueil de 8h à 18h tous les jours. Donc voilà, ça peut être, c'est quand même un petit peu plus qu'un seul, un simple appart. Bon, mais écoutez, je crois que j'ai le droit à un intéressant.
C'était vraiment très intéressant.
Et formidable.
En plus, le matériel fonctionne.
Le pack marche,
c'est pas beau.
Ah, j'ai failli, il a failli y avoir. Allez, on reset pour le deuxième. Pour fêter le jumelage entre Angers et Austin. Austin qui est au...
Au Texas.
Oui, aux États-Unis, au Texas, effectivement. Une journée dédiée à la culture américaine se tiendra au Parc Saint-Serge, donc toujours au même endroit, le samedi 7 octobre prochain, donc samedi prochain. Donc les festivités débuteront le 6 avec un brunch à l'américaine, où les participants pourront déguster les pancakes, accompagnés de bacon et d'œuf. Vous mangez ça le matin, vous ?
Je sais juste pas si ça a l'air américain ou ça lasse dans ta bouche. Mais
pancake, je
sais pas.
Bon, il y aura une conférence animée de 11h à 11h30 par l'artiste Fabienne Ray, originaire d'Austin, qui œuvre à la création d'une fresque dans le quartier de Montplaisir dans le cadre d'Échappée d'art. Le 7 octobre, les Yankees d'Angers offriront également des démonstrations de sport américain, notamment du flag football. Ouais, alors, quoi, qu'est-ce que c'est football? Que le flag football ? Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Flag, drapeau ?
Ben oui.
Donc, non, pas de drapeau.
Il y a pas de drapeau.
Du football dansé, ça peut être sympathique aussi.
Et c'est comment flag? FLAG.
Bah,
donc, il y a un flag, un drapeau.
Un flag? Non, il y a pas de drapeau spécifique. Ok, Théo, pas d'idée. Non. Alors, c'est une variante du football américain, mais sans contact.
C'est tout?
Voilà, c'est tout. C'est, on se fout pas sur la gueule, quoi.
Ah ouais. c'est du soccer, quoi.
Oui, c'est,
football
américain, on peut prendre un peu.
Bah, c'est pas du foot, alors.
Ouais, non.
C'est un football américain où on se touche pas. Qu'est-ce que tu veux? Bah, c'est un football Covid.
C'est respectueux de l'autre.
C'est ça. c'est ça. Ouais. Alors, il y aura également du cheerleading. C'est quoi, le cheerleading?
Avec les cheerleaders.
Et deux et trois.
C'est ça, voilà.
Oui, c'est avec les. On sent que t'as été cheerleaders aussi dans ta vie.
C'est les pom-pom boys, effectivement. Pom-pom boys et pom-pom girls.
Mais souvent, ils font des figures acrobatiques incroyables.
Ouais, ouais, c'est très, 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 très sportif. Donc, il y aura également du football américain du vrai. Donc, à 15h20, à 15h40. Enfin, il y a plein de choses. Les intéressés pourront même s'initier à ces sports. Enfin, les deux villes se joindront autour de la culture hip-hop avec de nouvelles compositions présentées. Voilà, le tout. Le rendez-vous est fixé à 19h pour le hip-hop. Donc, ça vous intéresse un petit peu de fêter Austin?
Cool, ça va être cool.
Est-ce que vous saviez au moins qu'Angers était lié à Austin?
Non, en même temps, Austin, c'est une des villes les plus dynamiques du Texas.
C'est vrai qu'on a bien choisi. Ouais. Parce que le Texas, pas très open comme ville, mais comme région, comme pays.
Comme état,
je cherchais le... Voilà.
Je crois qu'il y a Austin, je crois qu'on est aussi jumelé avec Pise, il me semble.
On est jumelé avec Pise.
Ah,
le Pise d'Italie?
Il me semble, je crois. Ah ouais, bon, il y a pas mal de villes.
On est avec Düsseldorf.
Merci Jean-Michel à peu près.
Ah non, j'avais vous dire.
En tout cas, la jauge n'est qu'à 25%, donc on a réussi à finir ça.
C'était vraiment très intéressant.
Allez, petit reset.
Moi, je dis que on est jumelé avec Pise, Osnabrück et Haarlem aux Pays-Bas.
Et Haarlem,
Par contre, pour Osnabrück, tu peux pas inventer des noms de villes comme ça. Ça ne fonctionne pas.
Si, Osnabrück, c'est bon. Allez, on reset un petit peu, vous pouvez toujours voter pour savoir si ça vous intéresse de chez vous. Donc, et vous avez le chat également, normalement. On peut regarder le chat, est-ce qu'il y a des choses?
Pour l'instant, il n'y a pas grand monde sur le chat.
Ok, mais allez-y, vous pouvez allumer. Il suffit d'aller sur
radio-g.fr,
c'est marqué chat, vous allez sur chat et puis vous parlez. C'est anonyme et on voit directement vos messages. Le parking du quai, vous saviez qu'il y avait un parking sous le quai, le théâtre le quai?
Sous le quai?
Oui,
ah non.
Parking souterrain sous le quai. Eh bien, il est ouvert en 2007, en même temps que le théâtre le quai, et il était gratuit. Et c'était quand même assez sympa.
Il était.
Et voilà, c'est le problème, c'est qu'il était gratuit. Il ne l'est plus. Il ne va plus l'être. Donc la ville a décidé de le rendre à nouveau payant à partir du 16 octobre 2023. Et à cette date, si la première heure sera gratuite, il faudra ensuite débourser 1,60€ par heure. Voilà, de 19h à 9h. Et la nuit s'élèvera à 3€.
Ils ont augmenté par rapport à ralliement et fleurs. Oh putain, ouais. Le fait de savoir le prix des parkings s'est rangé.
Alors, il y aura juste des tarifs spécifiques quand il y aura des spectacles.
Ah, donc, c'est bien ça.
Ouais.
En fonction des événements.
Encore plus de monde à la Rochefoucauld.
75%. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, 75%, c'est bon, je l'ai eu quand même.
Oh là là, intéressant.
Allez, dernier. Angers est classée parmi les meilleures villes étudiantes.
Ouais.
Elle est dans le top 10 d'après le classement élaboré par l'étudiant. Angers figure parmi les meilleures villes étudiantes qui comparent, on va faire un reset, t'as raison. Parmi les villes étudiantes qui comparent 46 des plus grandes villes de France. Donc, elle palmarès établi à partir de 13 critères dans le logement. Bon, je pense pas qu'on a eu un super point là.
Descendu dans le classement.
On a dû descendre dans le classement. Le transport, l'emploi, l'offre et la formation, la part étudiant, etc.
Il y a pas les bars.
Alors, un petit peu. Si, c'est marqué, parce que pour juger, il y a l'attractivité, la formation, la vie étudiante, voilà, le cadre de vie, ainsi que l'emploi ou le dynamisme économique. Donc, à ce jeu, c'est Montpellier qui domine avec une note de 93 sur 121. Angers arrive donc à quelle position, d'après vous?
À troisième. Deux ou troisième, franchement.
Deux ou troisième?
Septième. Premier?
Non, on est dans les 10 premiers.
On gagnera jamais face à Montpellier. Ah non, tu dis 10 premiers? Non, t'aurais dit 5 premiers.
Neuvième.
Cinquième.
Ouais, 7, Florian, Théo, 6e, il n'y en a aucun qui dit puisque c'est 8e.
Oh, voilà.
82 points sur 121. Alors, Angers est perçu comme une petite ville où l'on fait tout à pied, ce qui est vrai.
C'est plutôt vrai.
Une ville agréable.
Sauf si tu t'appelles la
ce qui est vrai aussi. Dynamique.
Oui.
Alors, le patrimoine historique et la nature est très présente. Alors, pas dans l'hypercentre, mais un petit peu autour, si.
Ouais, avec
pas loin.
Le jardin des plantes, ouais, si.
Oui, un petit peu. Bon, il y a d'autres villes qui sont
vite rendues au lac de Maine.
Il y a des villes beaucoup plus bétonnées, quand j'ai quand même. Autre point mis en avant, le côté transport, puisqu'une ligne de nuit circule du jeudi au samedi jusqu'à 6h du matin pour celles et ceux qui veulent festoyer toute la nuit.
C'est que t'as vu ça, toi.
Alors, ça, c'est vrai. Bah, si, il y a le hibou. Le hibus.
Ah,
le hibus de nuit. Par contre, maintenant, les nouveaux horaires font que les bus s'arrêtent avant minuit. Ça fait gros scandale quand même.
Puis ils ont changé tous les horaires. Il y avait des trucs qui passaient à des très bons endroits. Ils les ont supprimés du jour au lendemain.
Ça veut dire devant chez lui quand il dit ça.
Je prends pas le bus. Mais ma compagne, justement, on en avait un juste en dessous. Ils l'ont supprimé et il y a aucune raison. C'est tout le monde s'en plaint. Et je sais pas, ils ont fait n'importe quoi.
Il paraît qu'il y a une pétition pour les trams.
Oui, parce qu'ils arrivent trop tard. Ils finissent trop tôt. Voilà, ils finissent trop tôt pour le tram et c'est un petit peu embêtant. En tout cas, 8e, on va avoir encore plus d'étudiants et encore moins de logements, donc ça va être difficile. On a un petit intéressant du coup.
C'était vraiment très intéressant.
Alors, voilà, merci.
Tu finis des trucs, il n'y a aucune tendance.
C'était fini.
Donc, c'est du succès.
Du succès, c'est très bien. Voilà, maintenant, on va voir si vous en avez. Ouais. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Il est temps maintenant d'ouvrir vos tiroirs. Donc, vous pouvez voter maintenant pour la chronique de Florian. Si elle vous gave un petit peu, eh bien, vous appuyez sur stop. N'hésitez pas.
Et il y a Tutu Rose qui nous dit bonsoir l'équipe.
Eh bien, bonsoir Tutu, vote bien. Florian, tu nous parles de quoi ce soir?
Eh bien, je vais vous parler d'une romancière belge.
Ah merde, t'es déjà à 75%.
Je sais dès qui tu vas parler.
C'est belge. Oui,
je crois qu'il allait le faire avec l'accent.
Elle a un style caractéristique, du coup. Elle est souvent en noir avec un chapeau.
Ah oui.
Elle s'appelle Amélie.
Voilà, elle s'appelle Amélie Nothomb, effectivement. Ah. Et c'est une autrice que j'aime particulièrement parce qu'elle fait des romans assez courts. Alors, pas plus de 200 pages en général.
C'est ça, ça t'aime bien, toi, quand c'est court avec des gros caractères, t'aimes bien.
Oh non. assez court, l'écriture est assez franche. Il y a pas beaucoup de mots. Enfin, si.
Il y a pas beaucoup de mots.
Non, mais il y a.
Ça, c'est vendeur.
Il n'y a pas de superflu. Il n'y a pas de superflu dans ce qu'elle écrit. C'est-à-dire, chaque mot est à sa place, chaque mot est pesé aussi, chaque mot est là pour sa signification. Et du coup, c'est plutôt agréable à lire et elle arrive à faire passer des émotions, en fait, en peu de mots, du coup, sur des thématiques qui sont parfois assez lourdes, sur des parcours de vie singuliers, et dignes parfois de la tragédie. Il y a vraiment des histoires assez folles et assez tristes aussi. Mais du coup, ça passe tout seul. Donc ça peut être assez intense et bouleversant, au final, quand vous lisez Amélie Nothomb.
Donc généralement, c'est que du drame? Ou est-ce que c'est un peu comédie? Est-ce que ça fait un peu rire? Ou non, c'est vraiment lourd à chaque fois?
En fait, elle arrive à nous faire passer dans des émotions différentes. C'est-à-dire qu'on peut, effectivement, ça peut être drôle. On peut rire et du coup passer la page d'après ou la phrase d'après, à une émotion un peu plus.
Donc on peut pas typer spécifiquement, si on n'a pas le moral, lire ça par exemple, c'est pas forcément le bon truc.
Il faut pas tout lire effectivement.
Une page sur deux.
Effectivement. Alors du coup, elle publie depuis 92, elle publie tous les ans un livre.
Oui, c'est vrai qu'elle est très. En même temps, si tu dis que c'est pas beaucoup de pages, ça va.
C'est ça. Mais en fait, elle met du temps à faire ses livres. En fait, elle sort un bouquin.
Il y en a qui mettent plusieurs années à faire sortir.
Je crois même qu'elle écrit plein de bouquins et elle sort pas tout en fait.
J'avais vu. Du coup, elle sort que les meilleurs. Ce qu'elle pense les meilleurs ou que son éditeur pense les meilleurs. Donc, elle a commencé à écrire en 92 son premier roman, c'est Hygiène de l'assassin. Donc, c'est assez connu du coup. Donc, c'est l'histoire d'un journaliste libidineux et misogyne, misanthrope de façon générale, de toute façon. Quoi?
Pourquoi tu m'as regardé?
Il n'est pas journaliste, hein, même le reste.
Non,
je
non,
dis
mais,
pas,
mais les misogynes, je ne sais pas pourquoi.
Et donc, en fait, c'est un livre qui est écrit que en dialogue. En fait, c'est un dialogue entre deux personnes.
Comme une pièce de théâtre.
Ouais, j'allais dire de découvrir la pièce de théâtre. Il y a des didascalies ou pas du tout?
Ah non, c'est un dialogue avec des répliques assez longues.
Un point au Scrabble, tu notes. Mais
du coup, ça doit se lire très très facilement.
Ah oui, ça se lit bien. Oui, ça se lit bien et rapidement. Et donc du coup, voilà.
Ça a eu des prix?
Vous avez des émotions? Bah oui, elle a eu quelques prix. Alors elle a pas beaucoup de prix du coup.
9,50.
Mais
elle a une promo sur son livre, c'est tout.
Elle a quelques prix. Bah d'ailleurs, son dernier roman, enfin son pas le dernier, mais un des derniers.
En tépédultime.
A eu le prix Renaudot.
Ah, oui, quand même.
C'est donc, pas mal.
C'est pas mal.
C'est pas trop mal, mais elle a pas de concours, elle a pas tout ça. Elle a de temps en temps des petits prix en France.
Donc toi, tu les as tous?
Je les ai pas tous lus, mais c'est vrai que c'est mon objectif de tous les lire.
Et est-ce qu'il y a des redondances ou des choses que tu retrouves d'un livre à l'autre? Est-ce que c'est bien d'en lire plusieurs parce qu'il y a des petits clins d'œil sur les précédents ou est-ce que c'est vraiment des fermés, des unitaires?
Non, pas forcément. Après, tu retrouves forcément la patte quand même de l'auteur, des phrases assez courtes et très, enfin voilà, c'est très rapide. Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais
c'est efficace.
Métaphysique des tubes, c'est elle.
Il y a du rythme, en fait. Métaphysique des tubes aussi, c'est elle. Sandra, t'as l'air de.
Super et tremblement.
Stupeur et tremblement. Alors ça, c'est
tout le monde a lu.
Oui,
1999. C'est un roman en fait sur le monde du travail au Japon. Parce qu'en fait, elle a.
Ah non, mais moi j'ai vu le film. Attends.
Ah, c'est ça.
D'accord. Non, mais déjà, vous.
Bon, déjà, moi, tu savais que c'était elle qui avait.
Moi, j'avais un an quand il.
Elle a passé une partie de sa vie au Japon, en fait. Et donc, elle connaît bien l'environnement et la société japonaise. Et donc, elle décrit ça. Elle décrit ça assez bien. C'est assez.
Mais avec le point de vue européen, du coup.
Voilà. Donc, en plus, c'est une femme au Japon dans le milieu du travail japonais. Être une femme, c'est pas facile.
C'est assez dur. Enfin, ce qui lui arrive, quoi.
Oui.
Bah oui. Humiliant, on va dire. Quoi.
Bon, est-ce que ça vous donne envie de lire? Est-ce que
effectivement.
Ça vous donne envie de lire de Louis Nothomb?
Ben, oui. Non, c'est très bien.
Oui, Théo, est-ce que tu connaissais? On va lui mettre le micro devant. Est-ce que tu connaissais? Oui.
Non, pas du tout. Je voyais la personne, j'arrive à mettre un
visage dessus
sur cette personne, mais je ne connais pas du tout ses œuvres.
D'accord. Est-ce que Florian t'a donné envie de lire?
Il a le droit de mentir.
Eh bien, non.
Il a peut-être menti.
Bon, autre chose, Florian?
Eh ben, moi j'ai beaucoup aimé.
Excuse-moi.
C'est le personnage aussi d'Amélie Nothomb qui donne envie de lire ses œuvres.
C'est vrai, si on
l'entend. Elle incarne quand même quelque chose, quoi.
Il t'a balancé un c'était intéressant alors qu'il n'avait pas fini.
Je croyais que t'avais fini, autant pour moi.
Non, 75%.
Non, mais j'ai dit que t'as ça, mais en mode c'est intéressant.
Il y avait autre chose? Non, c'est bon.
Non, après, je peux vous dire qu'elle a un timbre. À son effigie en Belgique.
Super.
Ok.
Et qu'elle a une rose et qu'elle a un astéroïde à son nom. Voilà.
Ah, d'accord. Ok, très bien. Bon. Eh ben, écoute.
C'était Robin qui, alors déjà, nous dit bonjour à la belle équipe et qui lui aussi a été très honnête. T'as dit non, ça ne m'intéresse pas.
Pour Robin, voilà.
De découvrir.
Ok, tant pis. Bon, Joe.
Tant pis pour elle.
Tu me parles de quoi?
Alors, ce soir, moi, je vais vous parler. Alors, aussi d'un livre. Alors, pourtant, je suis pas du tout du genre à lire, mais pour une fois,
tu as des images.
Non. Quand même pas.
Non, même pas.
Trop beau.
Non, c'est une pièce de théâtre.
Ah. À lire.
Oui, à lire.
D'accord.
Et du coup, c'est Harry Potter et l'enfant maudit. Alors, je sais pas si vous l'avez vu.
Oui. Oui. Oui, j'ai le livre.
Et c'est l'un des rares livres que j'ai lu, et deux fois du coup. Et je l'ai donc retrouvé dans mon tiroir récemment, et je suis replongé dedans après m'être fait toute la série d'Harry Potter en film. Et j'avais oublié à quel point vraiment c'est très agréable à lire. Alors tu vois, moi qui suis pas du tout lecteur, je retrouve ce que tu disais, donc avec le côté dialogue, c'est très...
Faut s'y mettre un petit peu au début, parce que tu disais tout à l'heure, les didascalies, là, il y a des petites descriptions.
Ouais, mais alors.
Donc, faut s'y mettre un peu, parce que ça casse le rythme. Mais sinon, ça se lit quand même, ça se lit bien.
Et bah, honnêtement, je pense que je pousserais vraiment à dire que même ça, ça empêche pas, parce que, alors, bon, c'est encore plus facile pour moi quand je connais l'univers Harry Potter, mais tout le monde connaît un petit peu. Donc, même dès le début, tu vois, c'est facile à t'imaginer. Tu vois, tu t'es pas complètement perdu dans un nouvel univers. Ou alors, il y a des gens qui peut-être ne connaissent pas du tout l'univers d'Harry Potter. Mais c'est assez sympa, justement, quand on est assez faible en lecture. De se retrouver
donc,
dans un
sans trop nous spoiler.
Justement, je compte pas spoiler.
Ça commence après les.
Et ben en fait voilà, ça reprend à la fin de Harry Potter. Alors est-ce que je peux spoiler le dernier Harry Potter?
Oui, quand même. Okay. Qu'il a un fils.
Voilà, il a un fils du nom d'Albus Severus. Et en fait, on va suivre la vie d'Albus Severus dans son arrivée à Poudlard. Il va rencontrer le fils de Malfoy.
Ouais.
Qui lui est détesté parce que c'est un Malfoy machin. Et voilà, en fait, ils vont évoluer ensemble et il va pas du tout suivre le parcours de son père. C'est-à-dire qu'il vit un petit peu dans l'ombre de son père qui est le grand héros Harry Potter et il dit mais en fait je m'en fous un peu d'être son fils quoi. Et au fur et à mesure, au début ça va aller assez vite.
Un peu rebelle, c'est un ado rebelle.
Oui, complètement. Mais en fait c'est intéressant parce qu'il le voit vis-à-vis de encore une fois l'ombre qu'il a par rapport à son père. Mmh. Et lui il s'en fout, il veut juste faire sa life sans être associé à lui. Donc la pièce elle est sortie en juillet 2016 et elle a été représentée à Londres. Oui, mais je veux dire, la première représentation, elle a été en 2017. Donc voilà.
En plus, ils en font deux. Hein, c'est en deux parties.
Oui, alors c'est en deux parties. Là,
le livre, il est en deux parties.
Ouais, alors le bouquin, la plupart du temps, t'as les deux parties directement, mais t'as une ellipse entre les deux. Enfin, qui est un entracte, en soi. Et donc du coup ça prend bien suite 19 ans après la vraie fin d'Harry Potter où il tue Voldemort. Oh, merde le spoiler.
Mais je suis très curieux quand même au niveau de la pièce s'ils arrivent à faire tout ce qui est marqué dans le livre.
Alors non, c'est pas possible. Du coup
tu l'as lu. Moi je l'ai lu mais c'est vrai au niveau de la pièce, s'ils le fait c'est s'ils arrivent à le faire,
c'est qu'ils vont faire un film, c'est surtout ça.
Alors non, de toute façon normalement J.K. Rowling quel que soit ce qu'on pense de la personne a dit qu'elle ne voudrait pas le faire en film, ça peut changer.
Ouais, ça peut changer encore.
Mais en soi non, c'est pas spécialement prévu, surtout que ce serait assez galère avec certains acteurs, je pense.
Bah oui, parce qu'il y en a qui sont morts. Donc
Alors clairement, déjà malheureusement. D'ailleurs, l'acteur d'Albus Dumbledore nous a quitté cette semaine.
Ça en fait beaucoup quand même, hein, Hagrid, les deux Dumbledore.
Et donc du coup, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Je sais pas si tout est réellement faisable en pièce. Franchement, il y a des choses où c'est décrit dans le bouquin, mais tu te dis, en mise en scène, j'aimerais bien voir une vraie mise en scène. Par contre, les places coûtaient 200 ou 300 balles la moindre.
Et alors, le pire, c'est qu'il faut payer deux places. Mmh. Parce que c'est en deux fois, quoi.
Ah, par contre, c'est deux vraiment
soirées.
Deux.
Ah, mais c'est deux soirées, deux spectacles, donc tu multiplies par deux le nombre de places.
Eh, bon, écoute.
T'as pas besoin de faire deux films, en fait.
Voilà. Non, c'est ça. Attends, avant que t'appuies sur le bouton, on va juste demander, ça vous donne envie de le lire?
Ah moi j'ai le livre à la maison.
Ah tu l'as lu déjà?
Non.
Tu l'as pas lu encore?
J'ai tellement de livres.
Olivier, tu l'as lu?
je l'ai.
Non, je crois même qu'on l'a rendu. Enfin qu'on l'a.
Ah oui d'accord.
qu'on l'a donné à
quelqu'un. Donc oui, ça me donne envie de le lire.
Théo,
moi je l'ai lu, oui.
Ah tu l'as lu aussi?
Ça t'a plu?
C'était vraiment bien. On a vraiment l'impression de partir sur un nouveau truc qui est totalement.
Mais on retrouve l'univers quand même.
Ouais voilà, t'es pas trop perdu sur l'univers au moins.
Non, on n'est pas perdu sur l'univers, mais on a vraiment l'impression de redémarrer quelque chose.
Ouais ça. Moi, c'est ça que j'aime, c'est le fait de tu aimes une œuvre et t'as plus à manger sur cette œuvre. C'est vraiment ça. Alors il y a des gens qui vont dire ouais, mais ça c'est pas normal ou ça. Ouais, enfin le but c'est d'avoir plus de côté permet, fan. Donc,
ça permet de revoir effectivement des gens qui exactement, voilà. Ils ont une ellipse qui est assez sympa pour rapport à ça. Oh, là, c'était limite. Bon,
je fais quoi?
Je sais pas.
On va être honnête.
Sur le thème d'Harry Potter et pour continuer à parler littérature.
Oui.
Je sais pas si c'est la littérature.
Si, bah, c'est.
J'ai lu le bouquin numéro 2, ça s'appelle, de David Fuenkinos. Et du coup, ça parle de. C'est l'histoire de celui qui est arrivé deuxième au casting d'Harry Potter, qui n'a pas été pris.
Ah oui.
Ah oui,
d'accord. C'est le numéro 2. C'est son histoire.
Oui, c'est vrai, effectivement.
Alors, c'est inventé. Enfin,
oui, ouais, d'accord. Coup, c'est bizarre comme concept.
Non, mais le concept est assez intéressant, justement, ça m'intéressait.
Écoute, peut-être que tu le chroniqueras. En tout cas, on va passer à.
Il y a juste Robin qui.
Alors, qu'est-ce qu'il dit, Robin?
Alors, il m'a fait une pique, mais je ne l'ai pas compris. Du coup, il dit je ne suis pas du tout du genre à lire, entre guillemets. Il dit ça ne se voit pas du tout.
Ah, on ne sait pas sûr que.
La syntaxe de ma phrase est pas bonne.
C'est toi qui as dit ça.
Oui, mais du coup, j'imagine que ma phrase est pas bonne.
Bon, mais écoutez, vous pouvez toujours nous écrire sur le chat.
Raphaël qui nous dit, il n'y a pas de mauvaise lecture, et lui qui l'a lu, il dit quelques déceptions parfois, mais toujours des surprises.
Bon, merci.
Merci à vous de nous avoir rejoints ce soir sur le chat.
Ok. Allez, on poursuit avec Olivier.
Oui, dans mon tiroir, j'ai retrouvé un ticket de spectacle. Je suis allé il y a 5-6 ans voir un spectacle à Las Vegas.
Oh, comme cela.
C'était Elvis qui
a mis la pète.
Non, c'était Cirque du Soleil. Mais bref, ça me fait penser à Las Vegas. Et dans l'actualité, on parle beaucoup de Las Vegas. Est-ce que vous avez vu pourquoi? Non, vous n'avez pas trop.
Pas du tout.
Il y a Céline Dion qui retourne.
Non. Alors Las Vegas, on sait que c'est la ville de la démesure. Et récemment, c'est inaugurée une salle de spectacle futuriste qui a coûté 2,3 milliards de dollars.
Un milliard.
Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est?
Ça va.
Il y en a qui gagnent ça en une soirée à Las Vegas.
Le budget du Bangladesh pour toute l'année.
Alors, en fait, c'est ça le spectacle. C'est un immense dôme. Imaginez un dôme qui fait 111 mètres de haut, 157 mètres carrés de large, 157 mètres de large. Et tout le dôme est en fait un écran de LED qui fait 53 mm carrés, donc l'équivalent de 7 terrains de
à l'intérieur ou à l'extérieur?
Alors, bah, à l'extérieur.
Ah, l'écran est à l'extérieur?
Alors, l'écran est à l'extérieur. Donc, c'est le plus grand écran LED du monde.
Ah ouais.
Donc, il passe, là, il peut passer, mettons, un œil qui s'ouvre, ils peuvent passer une, un ballon de basket.
C'est un écran de 100 mètres.
C'est avant tout un écran publicitaire.
Bah, du coup, ouais.
C'est gigantesque, hein. Ouais. D'ailleurs, bientôt, il y aura un Grand Prix de Formule 1 à Las Vegas et ils vont mettre en valeur ce dôme.
Oh la vache.
Alors, ce que je savais pas, c'est que c'est une salle de spectacle, donc où il y a des spectacles à l'intérieur.
Oh non.
Et il y a aussi, eh bien, un écran à l'intérieur.
Comme à la Géode.
Comme à la Géode. Donc, c'est un écran qui fait 15 000 mètres carrés. Une résolution en 16K, c'est l'écran LED le plus puissant du monde.
Bien sûr.
Alors la salle de spectacle, elle a fait 18 600 sièges, c'est énorme. Et récemment, donc l'inauguration s'est lieu fin septembre, il y a eu un concert du groupe U2. Et U2 va faire ce qu'on appelle une résidence à Las Vegas, dans ce dôme, jusqu'à fin décembre. Et donc les spectateurs qui ont assisté au spectacle ont dit que c'était extraordinaire. Vous verrez peut-être sur le site. En gros, c'est ça. Vous voyez un écran. Dans le spectacle.
Olive, c'est toujours pas que c'est
un écran géant. Aux autres. On a l'impression que le concert est à l'extérieur.
Alors, ça, très chouette, je regarde.
Oui, c'est un écran, quoi.
On a l'impression de regarder sur
Internet. On peut mettre ce qu'on veut. C'est absolument bluffant. Les sièges bougent aussi, apparemment. C'est
après, il y a un côté cadet. 2,3 milliards, heureusement que c'est exceptionnel. Parce que
oui. Alors, du coup, le prix de la place, c'est combien?
Non, c'est pas trop cher, c'est 400 dollars.
400 dollars la place.
400 dollars.
On va revenir sur pas trop cher.
Parce que j'ai regardé à Las Vegas, ne serait-ce que si vous voulez voir Adèle. Moi, j'ai voulu prendre une place pour le 3 novembre, là, à la Toussaint.
Prix, à la Toussaint, elle est morte, Adèle.
1 800 dollars. Ouais. Et on peut aller jusqu'à 5 000 dollars au premier.
Oui. Attends, il est morte, sa blague.
Non, à la Toussaint, morte Adèle. Et donc, combien Adèle?
Ça peut aller jusqu'à 5 000 dollars, là.
5 000 dollars pour Adèle?
Ouais.
Ah ouais. Oh bah non, mais c'est...
Donc c'est n'importe quoi. Alors c'est pas dans le dôme, hein, c'est au César Palace. En plus, mais bref, c'est pour vous dire que c'est vraiment la ville de la démesure.
Ouais, mais c'est voilà.
Et démesuré aussi le coût énergétique du dôme. En fait, ça représente 96 000 MWH.
Mégawatts
par an. C'est la consommation à peu près d'une ville comme Valenciennes.
Juste le dôme.
Oui, juste le dôme, quoi. Consommation annuelle de Valenciennes.
C'est con parce qu'aujourd'hui on fait vraiment des technologies de LED qui permettent de limiter.
Oui, non, mais t'as vu la grandeur du truc. Ouais.
Alors, autant dire que déjà le barrage Hoover là, qui est à peu près à 15 km de Las Vegas. D'ici 5-6 ans, Las Vegas va tomber en ruine parce qu'il
n'y aura plus d'eau,
il n'y aura plus d'électricité.
Ok, très bien. Bon, c'était limite, mais t'as réussi quand même à bien avancer.
Allez. Et Robin nous rappelle que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, Olivier.
Oui mais bon, ça consomme quand même. Sandra, on parle de quoi?
En capote,
allez,
oui.
Et bah,
Sandra, vas-y, enchaîne après ça, toi.
Bah ouais, d'ailleurs, je vais enchaîner sur les capsules.
D'accord. Voilà, très bien.
Donc, moi, dans mon tiroir, dans mon tiroir de cuisine, j'ai trouvé une capsule de café. Donc, je vous embarque dans ma capsule à remonter le temps pour découvrir l'histoire des machines à café. Et comment est-ce qu'on préparait finalement le café avant, quoi. Avant les fameuses machines d'expresso.
D'expresso, oui.
Models.
Donc,
je me disais que je t'avais déjà vu dans une pub.
Donc, pendant longtemps, le café était préparé en infusion ou en décoction. Il a fallu attendre les années 1800, en fait, pour inventer la première cafetière, qui a été inventée par un archevêque de Paris. Et donc, c'est lui qui a inventé le premier système de percolation, baptisé du Béloir, ou encore des Béloirs.
Donc, c'était le percolation, hein, j'imagine.
Ça, oui.
Ça, oui.
Ça, c'est drôle.
Donc, la cafetière se présentait ainsi. Il y a un pot qui surmontait une carafe. Et entre les deux, il y avait la grille qui était trouée là avec les petits trous pour laquelle on place le café et on verse de l'eau dans le premier pot et ensuite on récupère le café dans la carafe.
On faisait comment avant?
Ça n'a pas changé du coup.
Parce que non, il a fallu l'attendre ce monsieur-là pour faire du café.
Oui, avant, si j'ai bien compris. Bah, en fait, le café, en fait, il apparaît vraiment plutôt au 15e siècle, la culture du café.
D'accord.
Avant, en fait, mystère. On ne sait pas vraiment.
D'accord. Il mâchait le café, mais il ne le faisait pas, quoi. Les feuilles de café.
Je pense qu'il le faisait, mais en infusion, en décoction.
Ah, donc, d'accord,
c'est dans cette idée-là, en fait. Okay. Il n'y avait donc, pas le. Je sais pas
le côté, d'accord.
Ensuite, il y a eu la machine italienne là, qui est très connue, Baglietti.
Oui.
Voilà, donc ça, c'est apparu en 1895.
Donc c'est l'eau qui bout et qui remonte et puis qui redescend.
C'est
d'accord.
Ouais, donc c'est la carafe qui sert à préparer le café tout en faisant chauffer l'eau.
C'est ça, c'est un peu crade quand même.
Et puis bah aussi le côté design en fait, on va dire, de la cafetière qui est voilà octogonale. Mm-hmm. Et donc elle s'inscrit dans l'histoire des cafetières en 1933. En 1924, donc à peu près, en 1924, il y a la cafetière à piston qui arrive, et celle-ci, elle est made in France, d'accord, totalement. Donc on l'appelle French Press. Ah. Et donc on revient à ce style d'infusion presque, on filtre le café.
Ah, donc c'est pas, il n'y a pas la pression pour forcer comme le percolateur, c'est plus, on laisse tomber l'eau petit à petit, quoi.
Là, oui, dans la cafetière à piston, il y a quand même le piston, la French press, mais filtre, on filtre quand même dans la cafetière, je sais pas, une sorte d'infusion.
D'accord.
Ah bon, c'est ce que j'ai
après
cru comprendre.
Jean-Michel, Sandra, à peu près.
Ok. T'es toujours ouvert, hein, ça passionne le public, donc vas-y, continue.
Bah, écoutez, en 1938, on se simplifie la vie, le café instantané arrive grâce à Nescafé qui a réussi à lyophiliser le café.
Okay.
Et en fait, c'est arrivé parce qu'au Brésil, il y avait beaucoup de stocks à écouler de café. Et au début, on a essayé de proposer des cubes de café auxquels il suffirait juste d'ajouter de l'eau chaude pour obtenir une bonne tasse de café.
Okay.
Et Nescafé a repris le commerce, quoi.
C'est bon en plus. C'est pas mauvais le lyophilisé, hein. Finalement. C'est pas mauvais. Non, il y en a des bons.
Ouais, c'est vrai.
Il y en a des bons.
C'est moins cher que les capsules.
Ah bah, par contre, oui.
Attends le dire. On ne perd pas ses habitudes pour autant. Entre 1930 et 1950, le café reste majoritairement préparé en infusion. En fait, même malgré les inventions, si vous préférez, des machines à café, en fait, on les utilise rarement. C'est quand même dans les brasseries plutôt.
Ouais.
Et c'est pas encore populaire. Et on jette en fait le café moulu directement dans l'eau chaude. En fait, c'est cette idée-là en infusion.
D'accord.
Et le café
et
ensuite.
On filtre après, du coup.
C'est ça. Oui, quand même un peu. Entre 1930 et 1950, donc du coup, il y a eu aussi la guerre. Pendant la guerre, le café était réservé aux soldats, et du coup, la population a bu plutôt de la chicorée.
Ah oui.
Et donc, comme je disais, ouais, le progrès des machines à café sont plutôt utilisées dans les brasseries, en fait, malgré tout. En 1972, la cafetière électrique et automatique arrive, et là, c'est le grand boom, en fait, des cafetières électriques, qui revient, du coup, dans les foyers.
Mm-hmm.
Et en 1985, arrive l'expresso broyeur, la Super Automatica, où là, il y a...
Grain est directement broyé, directement pressé, directement
c'est
tout est fait, quoi.
Voilà. La machine qui prépare elle-même le café avec un moulin intégré. Et 1994, c'est vraiment la machine à capsule qui arrive.
Mm-hmm.
Et là, bah forcément, elle est d'abord élaborée pour les professionnels, mais bah, ils ont des marchés.
Alors, t'as peut-être cherché un petit peu.
J'ai cherché un petit peu.
Et pourtant, c'était la dernière phrase. Ah, ouais. C'est quand même dommage, quoi.
Sur le gong.
Les capsules, c'est la fin d'opération.
Merci, Sandra.
Écologique et tout. Enfin,
mais on en fait des recyclables et.
Ouais. Et tu les renvoies, les recyclables.
Non, et tu peux les remplir aussi.
Oui, c'est
ah
vrai.
Oui, il y en a certains. Ouais. Ouais. Allez, dans la suite de l'émission, nous ouvrirons d'autres tiroirs, dont des chroniques mystères que les chroniqueurs vont découvrir en même temps que vous. On aura un peu de musique et on découvrira la chanson improbable du jour. Et ce soir, vous verrez qu'il y a du très lourd. Mais avant, on va retrouver le Graal. Cette saison, le Graal décide d'être joueur. Vous allez avoir 2 minutes pour trouver le sujet de sa rencontre. Là, par exemple, le Graal doit vous faire découvrir une série télé. Vous jouez de chez vous en nous donnant le plus rapidement possible le titre sur le chat radio-g.fr. Et ici aussi, bien sûr, autour de cette table, vous pouvez jouer. Salut, partons à la rencontre d'une série. Un des personnages va se présenter à vous. Vous avez 2 minutes pour retrouver le titre de cette série. Soyez le plus rapide. C'est parti.
Je suis le leader d'une équipe qui travaille pour le gouvernement américain. Notre but, accomplir des opérations dangereuses et secrètes qui visent à protéger la paix et la sécurité dans le monde. Je dois ensuite choisir les membres de mon équipe parmi une liste d'agents qualifiés. Je dois tenir compte de leurs compétences, de leur personnalité et de leur disponibilité. Je dois aussi veiller à ce qu'ils soient loyaux, courageux et discrets. Car si l'un d'eux est capturé ou tué, le gouvernement niera avoir eu connaissance de nos agissements. Nous avons souvent recours à des techniques sophistiquées pour mener à bien nos opérations. Nous utilisons des masques réalistes pour changer d'apparence des appareils électroniques. Nous sommes capables de transformer la réalité en fiction. Nous avons sacrifié notre vie privée, notre famille ou notre amour. Nous avons payé le prix fort pour servir notre pays. Mais nous ne regrettons rien, car c'est notre mission. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes.
Je suis sûr que vous avez une idée du titre de cette série dont la licence a été reprise par Tom Cruise. Je vous en laisse le fameux générique. Il fallait donc retrouver la série Mission Impossible de 1966. À bientôt pour une nouvelle rencontre. Retrouvez-nous sur Question Graal sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. Eh bien voilà, formidable. Vous avez trouvé sur le fil à la fin. Hein. C'était un petit peu compliqué, mais c'était Mission Impossible. Ben, maintenant, on le connaît avec Tom Cruise, évidemment, mais c'était avant une série télévisée. Vous êtes toujours dans DMT sur Radio G, l'émission qui vous donne le pouvoir. Si vous nous rejoignez que maintenant, rendez-vous sur le site radio-g.fr sur votre smartphone ou votre ordinateur et accédez à la page des votes. Vous allez pouvoir juger en temps réel les chroniques qui vont suivre.
C'est l'heure de la chronique mystère.
Durant le Graal, les chroniqueurs ont pu découvrir des sujets qu'ils vont devoir rendre passionnants. À vous de voter sur le site radio-g.fr pour les encourager ou les stopper. Olivier !
Oui ?
On parle de quoi dans ton mystère ?
On parle d'histoire.
Ouais ?
Ah, mystère, non, excuse-moi.
Vas-y. Mystère.
Non, bah si, l'histoire. Pendant l'entre-deux-guerres, la Nouvelle-Zélande devait faire face à une menace mystérieuse. Les pantalons explosifs. Bon, en fait, il y a des pantalons qui prenaient feu et explosaient spontanément. Alors, pourquoi ça explosait, ces pantalons?
Il y a des batteries.
Ben, en fait, c'était dû à l'utilisation de chlorate de sodium comme herbicide. Donc, ça devait concerner les agriculteurs. En fait, difficile à laver, le produit s'accumulait sur les vêtements et la moindre friction ou chaude chaleur, elle pouvait leur provoquer une explosion.
Ah oui, ça devait faire. Oui, ça devait faire.
T'as chaud.
Oui, ça devait faire chaud, d'un coup, ouais.
T'as eu chaud au cul, toi, bah, ouais. T'imagines pas?
Ah, je me suis éclaté, bah, tu m'étonnes, ouais. Ok, Sandra.
Alors, d'où viennent les noms des mois? On commence par le mois de mars déjà, donc c'était le premier mois de l'année avant, du temps des Romains.
Ah bon?
Bah oui, c'était pas janvier, d'après ce que... Donc c'est le commencement de la saison de la guerre.
Tant bien, c'est le lieu de la guerre.
Ah oui, mars. Ah, c'est pour ça, d'accord.
Non, mais
d'accord.
Oui, c'est sûr.
Donc il y avait bien une saison de la guerre, si je comprends bien. Mm-hmm. D'accord. Bon, qui dit guerre, dit mars, dieu de la guerre. Ils ne se sont pas foulés.
Tu me connais.
Chez qui? Ils sont pas... dans quelle mythologie?
Là, c'était les Romains, ça.
Les Romains, oui. Le temps des Romains. Février vient de février, qui veut dire purifier. On purifiait avant la guerre. Avril, c'est aprilis, l'ouverture des fleurs. Mai est en l'honneur de Maya,
l'abeille.
Mais pas Maya, l'abeille.
La
mais la déesse juin de Junon,
oui.
La femme de Jupiter.
Ok.
Donc juillet, c'est pour César. Août, c'est l'empereur Auguste.
Ah oui.
Septembre, et c'est le septième mois du calendrier de l'époque.
Oui. Septembre, sept mois.
Normal.
Et octobre, huitième mois.
Ah oui,
on va dire ça. Au bout de mon mois, ils avaient
plus de novembre, neuvième mois, etc. Et donc, Dieu. Vous avez compris, pour décembre, Jules César, 46 ans avant ses initiales, décide alors qu'en fait, l'année commencera en janvier, car c'était le mois où les magistrats prenaient leurs fonctions. Janvier vient de Janus, le dieu symbolique du changement.
Ok.
D'accord. Donc en fait, tout ça, c'est politique, quoi, quasiment.
C'est oui.
Donc c'est à l'époque de Jules César qu'on aurait changé pour janvier en premier.
Voilà, bah, apparemment.
C'est bon. Là, c'est vraiment intéressant.
Tiens, on lui met, vas-y.
C'était vraiment très intéressant. Alors,
le jingle.
Et puis voilà, bah, c'est resté vert, c'est parfait. On va passer le micro à Théo.
Bah, on va rester un peu dans l'Empire romain, parce que ma question, c'est pourquoi y a-t-il un S à Angers?
Ah.
Alors,
parce qu'il y en a plusieurs. Oui,
suivant une des explications avancées, le nom de la ville d'Angers viendrait de son ancêtre Andar, qui veut dire brûler. Bon, jusque-là, il n'y a pas de S.
Ouais, c'est
ça viendrait aussi de la capitale des Andes brûlée par les Romains, donc pas pas celle du Pérou, il ne pouvait pas y aller. Mais And veut dire aussi habitant de l'Anjou. And va devenir Andécavis, avec toujours ce S, et finalement Angers, avec un S du coup.
Ah,
aujourd'hui, on l'appelle aussi Ville des Fleurs, mais ça a été aussi l'Athènes de l'Ouest vers 1875. On l'a même surnommé la Ville Noire.
On se la pète.
On l'a même surnommé la Ville Noire avec ses maisons en schiste et ses ardoises. Puis au 19e siècle, on l'appelle la Ville Blanche avec les pierres de Tuffeau.
Ah oui, d'accord.
C'est qui lui ?
Ok. C'est qui Tuffeau ? Vas-y, Florian.
Et alors moi, je vais vous parler de parcs.
Parcs.
De parc avec des fleurs, des arbres,
ah,
tout
d'accord.
Ça.
Ah d'accord,
oui, pas Eden Park, oui.
Alors, les parcs.
Les parcs, eh bien, est-ce que vous saviez que habiter près de parcs augmenterait l'espérance de vie de 2,5 années en moyenne?
Ah bon?
Je suis pas étonné.
Oui, la nature, alors, c'est bien, c'est
ça,
bon.
Ouais, ça me dit pas que ça augmente, mais 2,5.
Ah, quand même, c'est quand même pas mal. Hein.
Et si, voilà.
Tu vis pas à côté d'un parc, toi.
Apparemment, selon certaines... Selon certaines études et certains chercheurs, ça changerait en fait la composition des molécules dans les cellules, tout ça, enfin dans le corps humain.
D'accord.
Voilà, ils ont détecté ça dans le sang. En fait, ils ont trouvé que ça changeait les molécules. Enfin bref, voilà. Et donc, c'est bon pour le corps et pour la santé mentale. D'ailleurs, les personnes qui habitent près des parcs ou fréquentent des parcs régulièrement, par exemple en se couchant sous un arbre ou en s'enlaçant au tronc.
D'accord.
On voit souvent ça, du coup.
Oui, dans ça, c'est avec les arbres.
Les gens qui se reconnectent avec la nature et les arbres.
Et donc, on gagne.
Et bien, ils consomment moins de médicaments. 33% en moyenne de moins que des personnes qui ne fréquentent pas de parcs ou la nature.
Est-ce que c'est parce que la nature apaise et peut-être parce qu'il y a plus d'oxygène aussi?
Oui,
je pense qu'il y a une notion d'apaisement, d'oxygène. Et aussi,
moins
je pense
de pollution
que...
aussi.
Ouais, je pense qu'à force d'enlacer des arbres, tu oublies où tu es et tu oublies de prendre des médicaments.
Les plantes et les arbres émettent aussi des
dioxygènes.
Des choses.
Ah oui,
d'accord. Non, pas, des bonnes ondes.
Ben allez-y, faites passer la petite plante là. Je sais pas ce qu'il a pris là, mais c'est ça a l'air très très bon. En tout cas, oui, on ira au parc alors, pas de souci.
17 ans d'espérance de vie en plus.
Et Joe,
on va parler santé. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la cacostomie?
La cacostomie, ça fait du bruit, ceux qui caquettent, ceux qui...
Il y a un rapport avec la bouche, mais c'est pas celui que tu crois. Alors, ça vient du grec ancien cacos, qui veut dire mauvais, et stoma, qui veut dire bouche.
Mauvais bouche.
En gros, si on te dit
de la bouche.
Bah voilà, mauvaise si on te dit que tu as de la cacostomie, c'est que tu refoules du goulot. Voilà, tu sens de la bouche. Alors je sais, c'est pas agréable à entendre, mais si on te le dit pas, tu vas pas comprendre pourquoi les gens ils se plaignent de toi quand tu parles.
C'est un chewing-gum, Émile.
Ouais, exactement, très bonne référence. Alors bien sûr, il y a le masque, mais le jour où tu voudras embrasser ton ou ta bien-aimée, pas sûr qu'on apprécie ton parfum de ras-le-mort.
Ouais.
Je ne fais que lire, mais c'est très très drôle. Généralement, alors c'est dû à la présence de bactéries qui s'en font à cœur joie de relâcher leur gaz dans ta bouche. Alors voici quelques solutions, en plus du lavage de dents et de la langue régulièrement, n'oubliez pas. Vous pouvez boire du jus de citron, mâcher du persil et faire une cure de charbon végétal.
D'accord.
Voilà, ça fonctionne aussi pour les aftes apparemment. Parce que moi j'en ai en ce moment et je meurs de la bouche, j'ai tellement mal. Mais le jus de citron aide beaucoup, voilà. C'est...
Très bien, bon allez vas-y, fais-toi un intéressant alors. Pof.
C'était vraiment très intéressant.
Formidable.
Il n'y en a eu que 3 sur...
Non, mais c'est bien, tous, c'est bien. Allez, 2. Il est temps de rouvrir vos propres tiroirs, puisque certains chroniqueurs ont eu une deuxième chronique de tiroir sur ce soir.
C'est l'heure de la chronique mystère.
Non, c'est pas le
mystère. C'était pas mystère, non, c'est pas grave.
Autant
alors, elle n'est pas mystère, celle-ci. Vas-y.
D'accord, alors. Donc, j'ai ouvert un deuxième tiroir.
Ouais.
Et dans ce deuxième tiroir, une balle a rebondi. Et donc, c'est une balle de ping-pong que j'ai trouvée.
Ah.
Et donc, je me suis dit qu'en septembre, c'est souvent les mois où on s'inscrit à des clubs de sport.
Ah, oui.
Donc, je vous propose d'en apprendre un peu plus, pourquoi pas, sur le ping-pong.
Oh putain. Tu vas avoir un stop rapidement, je crois. Mais
tu parlais de sport, mais jamais. Je sais pas. Donc...
Ah, ouais.
Alors, le ping-pong, on emploie ce mot-là pour le loisir, mais le sport, en fait, on l'appelle le tennis de table. On différencie en fait. Et la naissance de ce loisir en fait apparaît en Angleterre en 1880 lors d'un dîner entre notables. Et donc ça a été inventé par John Jack, qui déposa la marque Ping Pong en 1900.
Ah c'est une marque.
Ah bon, d'accord.
Bah oui. Donc en France. Non, c'est bon. En France, les championnats débutent en 1929 En France, les championnats débutent en 1929 et la Chine est le pays du ping-pong. Oh, bah mince. Alors, je voulais vous dire ping-pong en chinois. En chinois ?
Ouais, en chinois. Comment on dit ?
Ping-pong. Ping-pong-cue.
Ça va être inventé en Chine, en fait. C'est français.
Bon, Théo, allez. Il n'y en a pas. Alors,
non, j'en ai pas.
C'est Florian aussi, c'est parfait.
Allez, si tu veux.
Non. T'as la note? Sinon, on passe au suivant, il n'y a pas de souci.
Non, vas-y, on va le mystère.
Ok, alors c'est le moment de la pause improbable. Alors là, pour le coup, c'est hautement improbable. Donc, pour les anciens, est-ce que vous connaissez la danse des canards?
Oui. Oh non.
Alors, vous deux, vous connaissez? Théo, connaît pas trop?
Si t'as fait ça. Oh, d'accord. T'es un génie. D'accord. Oh, je t'aime. Je sais ce que tu vas passer. Ça va être incroyable.
Bon, ok, pas de souci. je sais pas. On va commencer. Donc, en 1957, la danse des canards, ça s'appelait pas comme ça, mais ça, c'était ça. Donc dans les années 70, une version modernisée sort sous le nom de Chip Chip. Et en 1980, on y joint des paroles françaises et une chorégraphie.
Bien sûr.
Eh bien sûr, qu'on connaît par cœur, c'est la version de Gigi Lionel. Elle est dans le livre des records de 1983 avec ses 2 500 000 exemplaires vendus quand même. Hein.
Dingue.
Et ouais, ça donnait ça.
C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant coin coin. À présent claquez du bec en secouant vos plumes avec.
Donc, est-ce que ça donne... là, bon, Sandra, oui.
On
a bon, là, on connaît Théo, par contre. Non, du tout. T'as échappé à ça?
Si, c'est quand même assez connu dans les mariages et tout.
Ah, il y a quand même...
Je dirais malheureusement, mais bon, c'est pas grave.
Voilà, très tard en soirée.
Alors donc, tout ça pour en venir aux reprises. Donc, cette chanson, on en a connu beaucoup. Mais celle qu'on vous propose est vraiment étonnante. Incroyable. Alors, loin d'être ringarde... S'il n'y avait pas les paroles, évidemment, ce serait peut-être un titre classique. Il s'appelle Lehman, il est chanteur, et il a fait un cover totalement barré de la danse des canards. Écoutez.
C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin coin. Et pour que tout le monde se marre, remuez le popotin en faisant coin coin. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin coin. Et avec beaucoup d'entrain, remuer le popotin en faisant coin coin. Tournez, c'est la fête. Par-dessus, dessous.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette version de Lehman?
Incroyable, c'est
incroyable.
Ah, j'adore ce qu'il
a fait. C'est incroyable, et on n'a pas été bloqué.
Non, on a je pense que ça. Enfin, vraiment, je suis peut-être pas objectif parce que je surkiffe cette chanson, mais vraiment, elle est bien.
Ouais.
Elle est vraiment très cool. Et du coup, il a dit à ses abonnés, mais venez, on fait croire aux Américains que c'est une chanson triste. Vraiment, il y a un mec qui s'est chauffé, qui a fait un paragraphe. Écoutez les gars, tout en anglais, c'est une histoire sur un mec qui va à la Première Guerre mondiale, qui a perdu ses amis et tout, et qui se retrouve avec un canard. Et les Américains, ils croient vraiment, ils sont tous en mode, ah ouais, c'est une chanson super triste, etc. Very, moi avec les Français. Et genre, c'est trop, trop bien comment ça fonctionne.
Allez, on rouvre nos tiroirs mystérieux et on remet les compteurs à zéro et on vote sur radio-g.fr en direct.
C'est l'heure de la chronique mystère.
Si, si, c'est bien la mystère cette fois-ci. Olivier, une petite mystère?
Non,
alors Sandra, non plus. Théo, on y va, petite mystère.
Bon, alors,
bien préparée.
J'ai attrapé un petit coup de froid ce week-end et je crois que j'ai trouvé la raison. C'est peut-être la douceur angevine. Mais d'où vient l'expression?
Ah oui.
Alors, c'est vrai que dans le Maine-et-Loire, il y a une douceur particulière du climat, sans doute due au fait que le département est traversé par la Loire, la Sarthe, la Mayenne et la Maine. Autant de barrières naturelles aux écarts de température. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit de la neige par ici, c'est vrai. Mmh. Et pour les plantes, c'est excellent. Plus, près de 70% des 723 000 hectares du département sont des plantations horticoles. Mmh. Bref, tout est là pour représenter une douceur de vivre. Quant au terme douceur angevine, il remonterait au XVIe siècle où Joachim du Bellay écrivait au sujet de la région. Et plus que l'air marin, la douceur angevine. Eh bien, merci.
Et bravo. Il merci. A eu son premier, on s'en fout.
Ouais, bravo.
Félicitations. Bravo.
J'avoue. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir.
La haine prononcée, ça se fait toujours.
Florian. Une petite bref, Florian.
Alors oui, je vais vous parler de parc.
Oui. Encore? Non,
mais de parc d'attraction.
L'attraction, d'accord.
Il est fort.
Héritage USA. C'était un parc d'attraction pas comme les autres qui a été fondé par les évangélistes. Il s'agissait du plus grand parc à thème chrétien.
Oh la vache.
Incroyable. Attirant chaque année.
Les attractions. Je te cloue, je te fais éteint.
Attirant chaque année 5 millions de visiteurs. Il se plaçait juste derrière Disneyland en termes de fréquentation et était particulièrement rentable. Car exempté de taxes, bah voyons.
Ah bah tiens,
ça aide à être rentable. Hein.
Son exemption fut par la suite levée et sa fréquentation chuta lorsque son fondateur, le télévangéliste Jim Baker, fut impliqué dans plusieurs
scandales. Alors t'as pas ton casque, mais tu viens de t'en prendre une dans la tête.
Ah ouais,
je suis démonté.
C'était à 50 tranquille, c'est passé à 100 d'un coup.
De toute façon, c'est fermé.
Non, voilà, super.
Rapidement, parce qu'après on a juste la petite chronique d'Olivier.
Eh ben, j'ai l'expression, d'où vient l'expression semurger? Est-ce que
semurger,
ça vous dit quelque chose?
Quelqu'un, ce qu'habite Saumur?
L'avocat.
Saumurger.
Non, en fait, elle date du début du XXe siècle, quand les Parisiens, ils avaient l'habitude d'aller boire dans la rue Alphonse Murge. Oh. Et alors, qui est aujourd'hui disparue. Elle est connue pour ses nombreux marchands d'alcool, en fait.
D'accord.
Et donc, du coup, on va semurger rue Murge. Tout comme on va fluncher chez Flunch.
Rue Flunch, voilà. Non,
D'accord.
C'est ce qui était écrit.
Voilà, merci. Il y avait un dernier truc qui était marqué, non?
Oui, il y avait. Allez, puisqu'il insiste. Donc, on va la refaire. Donc, on va submerger Rumune.
Voilà, vas-y, refais-la, doucement.
Bon, on va submerger Rumure, vous avez compris. On va fluncher chez Flunch. Et moi, je vais chez Nike.
Voilà. Ouais,
ouais. Cette émission est si
bonne.
Et ça n'a pas été buzzé.
Non.
C'est n'importe quoi.
T'es arrivé à 25, c'est bien.
Olivier, s'il te plaît.
Alors, Olivier, c'est des petits mystères.
Oui, c'est le nous
parles. Je suis allé voir un film avant-hier.
Donc, t'as retrouvé ton ticket dans le tiroir.
Je suis allé voir Le procès Goldman. Et le procès Goldman, eh bien en fait, c'est un fait historique que moi je ne connaissais pas, et donc ça était vraiment super intéressant. Est-ce que vous connaissez Pierre Goldman? Non, personne.
Son frère, on connaît. Mais
alors
lui,
Pierre
on
Goldman, et eh oui, c'est le demi-frère de
Jean-Jacques
Goldman. Donc il faut remonter. Alors c'est qui? C'est un enfant de résistant juif polonais qui a œuvré en France dans la résistance communiste. Il a aussi été guérillero en Amérique latine, donc il a battu pour des idéaux plutôt extrême gauche. Et puis quand il est revenu en France, il a sombré un peu dans le banditisme en faisant 4 braquages. Et puis donc en 74, il a été inculpé réclusion à perpétuité pour avoir fait des braquages et aussi pour avoir peut-être tué 2 pharmaciennes.
Mmh. Peut-être.
Peut-être. Alors après, donc en prison, il a sorti un bouquin qui est devenu un best-seller. Ça s'appelait Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France. Ça a été tellement populaire qu'on a dû refaire un jugement, même à l'initiative de Giscard d'Estaing. En fait, on a demandé à être rejugé.
D'accord.
Parce qu'il y avait un vice de forme dans le procès. Et donc le film suit justement ce deuxième procès. En mai 1976. Et donc, au moment du procès, il y avait même Simone Signoret, qui était militante aussi d'extrême gauche, hein, qui le soutenait.
D'accord.
Et puis, il y avait aussi Jean-Jacques Goldman, qu'on voit dans le film. Donc, il a toujours clamé son innocence. Pour lui, il était braqueur, mais il clamait son innocence sur le fait qu'il n'avait pas tué ces 2 pharmaciennes. Et donc, le film...
Nos actes manqués.
Ouais, entièrement un procès.
Non, quand même.
Et en fait, c'est filmé comme si on était membre du jury. le même procès.
D'accord.
Donc on suit tous les témoignages. Et en fait, à nous de nous faire notre propre jugement. Alors, faut savoir qu'il a été acquitté. Les témoignages font que, en fait, on dit de penser qu'il n'a pas tué les deux pharmaciennes.
D'accord. Hein?
Donc, c'est avant tout un film sur la présomption d'innocence. Il y a des plaidoiries extraordinaires. Son avocat, c'était Maître Kijman, qu'on connaît, enfin, ouais. Assez connu. C'est aussi sur, alors, lui-même, Pierre Goldman a beaucoup axé sa propre défense, c'est lui-même qui s'est défendu. Il axé beaucoup sur le racisme de la police en général, vis-à-vis des juifs, vis-à-vis des métèques, enfin, c'est le terme qu'il utilisait dans le film, vis-à-vis des noirs et tout. Et donc c'est encore assez d'actualité. Voilà, c'est des choses qu'on entend. Et puis moi, ça m'a fasciné parce que dans le public, il y a Jean-Jacques Goldman qu'on aperçoit.
C'est un acteur qui joue Jean-Jacques
Goldman. Un acteur qui joue Jean-Jacques Goldman. Alors à l'époque, il avait déjà fondé Taifong. Hein, ça faisait 2 ans qu'il avait fondé, qu'il jouait dans Taifong. Et c'est étonnant parce qu'on n'a jamais entendu parler de
son demi-frère. Avant ça, j'avais jamais entendu son
frère. Non, non plus.
Il faut savoir que le demi-frère, donc il a été acquitté. Il a été condamné à 12 mois de prison. 12 ans de prison. Il a fait que 6 mois pour bonne conduite. Il a été libéré. Et 3 ans après, il a été assassiné dans la rue. Visiblement par des policiers qui n'étaient pas trop contents qu'il était.
Bon, en tout cas, tu nous conseilles le film?
Le film est super. C'est une reconstitution des années 70 assez extraordinaire. Et bon. Moi, ça m'a bluffé. Les acteurs sont géniaux. C'est impressionnant. C'est
ok.
Vraiment un gros coup de cœur.
Très bien. Bah, écoute, merci en tout cas pour cette conduite. Ouais, c'est intéressant.
C'était vraiment très intéressant.
Ouais, très bien. Allez, on va terminer. C'est bientôt la fin de l'émission. On va juste jouer avec un dernier petit Graal et on va se dire au revoir. Donc, cette fois-ci, il faut découvrir une chanson avec juste les paroles. Donc, écoutez bien et essayez de trouver de qui il s'agit. Salut. Partons à la rencontre d'une chanson. Grâce à la lecture des paroles, vous allez devoir retrouver le titre et l'interprète. Soyez le plus rapide. C'est parti.
On oublie tout. Tous les barrages qui nous empêchaient d'exister. Quelque chose de neuf a tout changé. Quelque chose et ça me fait avancer. On oublie tous les gens. Tous les naufrages. Tous les bateaux. Touchés. Coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer. Elle dit j'imagine des musiques qui se dansent. Pour toi. Elle dit j'imagine des mots dans le silence. Pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence. Comme ça encore une fois.
Avez-vous retrouvé le nom de cette chanson de 1986 ainsi que celui de son interprète masculin? Je vous laisse encore quelques secondes.
On oublie tout, tous les barrages qui nous empêchent d'exister. Quelque chose de neuf a tout changé. Quelque chose, et ça me fait avancer. On est
C'est une chanson de Gérard Blanc, Une autre histoire. Il y a même une version anglaise en 1988. À bientôt pour une nouvelle rencontre. Retrouvez-nous sur Question Graal sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. Donc tout à l'heure, vous avez réussi à trouver. C'était difficile hein, pour Florian. Olivier a trouvé rapidement.
Gérard Blanc.
Oui, parce que on a eu la réponse oui, là. Donc, mais effectivement, non, Sandra, ça a été plus dur. Alors c'est pas la génération de Théo, donc t'as pas trouvé, hein, non. C'était pas. Et Joseph.
Ouais, non, alors,
mais je connaissais la chanson quand même.
Ah, quand même, ouais, tu connaissais pareil, la chanson. On, tu fais les mêmes mariages, quoi. C'est
la danse des canards et Michel Blanc.
Est-ce que cette année a vraiment existé 86?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, tiens, allez, juste un tout petit cadeau avant de se quitter. On a écouté tout à l'heure Lehmann, mais Lehmann, il ne fait pas que des reprises de la danse des canards. C'est un vrai chanteur également. Je vous propose un petit extrait de ce qu'il fait.
Petit garçon né blanc, avantage à la naissance, réfète spéciale pour ça, j'ai pas de mode d'emploi, juste né là où il faut, dans l'hémisphère, donc pour celui qui mange, celui du bas, pour en devenir toujours plus gras. Alors peut-être même que dans 30 ans, je serai riche et plus important, je pourrais même faire les lois et être au-dessus à la fois. Être parmi les 1%, elle garder tout le monde de haut, mais quand on possède autant, dépossède tous les autres. De partout ta dis, que fait la police, quand d'autres disent c'est comme ça et rien ne changera.
Voilà. voilà, si vous voulez découvrir, il s'appelle Lehmann. Donc ça, c'était Petit Garçon. Donc c'est un bon chanteur également. C'est la fin de ce numéro de Dans mon tiroir, l'émission qui vous donne le pouvoir. Merci aux chroniqueurs du soir. Merci Joe, qui a réalisé cette émission.
Merci. Avec le maître.
Merci Sandra.
Bah merci, et j'espère que vous mettrez vos pipeaux.
Oui, tout à fait. Merci Florian.
Merci à vous.
Merci Olivier.
Merci, bonsoir.
Merci Théo.
Merci.
Et on embrasse
merci Bruno.
Oui, et on embrasse Caroline, hein, qui est au fond de son bain. Et Covidée, c'est son premier de l'année. Hein. Je pense qu'elle va en avoir une dizaine comme l'année dernière. Donc, bon courage, Caro. Allez, on se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit, en direct. Il est temps de refermer nos tiroirs. Mais n'oubliez pas, avec DMT, c'est vous qui avez le pouvoir. Bonne soirée.